que ton intention est bonne. Mais tes actes sont mauvais. Et donc, qu'est-ce que faisait le roi des Khazars? Il faisait beaucoup d'idolâtrie, il a renforcé son service de l'idolâtrie jusqu'à ce qu'il a compris qu'il fallait chercher en fait la vérité ailleurs. Il va se tourner vers le philosophe et le philosophe va lui dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu n'a ni sin'a, ni haine, ni intention, ni s'intéresse à nous. C'est-à-dire? Et on s'est arrêté ici. On s'est arrêté par la petite histoire que je vous ai racontée. Il m'arrive d'arriver en France, enfin, il m'arrive chaque année, je vais en France pour pouvoir rencontrer les jeunes étudiants francophones, les jeunes lycéens, pour pouvoir leur proposer d'étudier à la yeshiva en Israël. Et le cours principal que je fais, c'est au sujet de ce sujet-là. En fait, ça commence par le Kuzari. Le Kuzari nous met en avant le philosophe, et la véritable question qui se cache derrière ce philosophe, c'est est-ce que Hachem, Dieu, a-t-il besoin de nos services, de nos mitzvot? Est-ce que Dieu a besoin de notre philote? C'est-à-dire que est-ce que Dieu a besoin de nous? C'est ça. Et je vous avais dit la semaine dernière, on s'était arrêté ici, qu'en fait, il y a eu quelque chose de très bizarre. C'est que quoi? C'est que dans la majeure partie des cas, tous les élèves, 80%, pas tous, mais 80% des élèves, qui représentent beaucoup, disent Dieu n'a pas besoin de nous. Quand on les pousse un petit peu vers leur limite, ils arrivent à dire devant nous, en effet, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est bien? Maintenant, on va essayer de comprendre par rapport à ça, hein, la position du philosophe. La position du philosophe est qu'en effet, Dieu n'a pas besoin de nous. Et faites très attention, ici, le philosophe qui est représenté dans le texte de Rabbi Yehuda Lévi, c'est un philosophe religieux. Les gens posent la question, comment se fait-il que Rabbi Yehuda Lévi n'a pas pris la question du philosophe, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Et là, on commence tout de suite par le discours du philosophe qui dit, Dieu ne s'intéresse pas à toi, n'a ni haine ni amour, n'écoute pas tes prières, n'attend pas tes mitzvot, alors qu'il aurait pu poser la question avant, est-ce que Dieu existe ou pas? Mais il semblerait que pour Rabbi Yehuda Lévi, la question n'est pas est-ce que Dieu existe ou pas, la question c'est même s'il existe, est-ce qu'il est mashgiach? Qu'est-ce que ça veut dire mashgiach? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une existence de Dieu, on n'attend pas ça, uniquement l'existence de Dieu, mais est-ce qu'il s'intéresse à ce monde? Est-ce qu'il attend de nos mitzvot? Est-ce qu'il attend de nos tfilot? Et là, je vais vous devoir expliquer deux étapes importantes. Alors, regardez, je vais faire une partage d'écran pour récupérer une Mishnah qu'on avait dit oralement, mais qu'on est obligé de rappeler pour pouvoir comprendre la suite. David, super partage d'écran, excellent. Bien fait. Est-ce que vous voyez bien? Ça, c'est grand. David, c'est bien.
C'est parfait alors.
Alors, regardez, ici, on a la première Mishnah des principes, okay? Des chapitres des principes. Ça s'appelle en français, en hébreu, Pirkei Avot. Alors, c'est chapitre de principes, des principes de morale, des principes de vertu qui représentent la Mishnah du Moussar, la Mishnah de la morale. Mais avant de nous parler justement de la morale, on nous dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Ok? Dieu a reçu la Torah mi Sinaï, du Sinaï. Le Maharal de Prague, alors attends, je traduis comme ça vous allez comprendre un petit peu c'est quoi le. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Donc Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Umsara l'Ishua, il l'a transmise à Josué. Veoshua l'Iskinim, Josué aux anciens. Uzkenim les Nevi'im, les anciens aux prophètes. Nevi'im et Sarua, les prophètes l'ont transmise aux gens de la grande assemblée, la Cheknesset Hagdola. Emramru Shlosha Dvarim, ils ont dit trois paroles. Et vous, Metunim Badim, soyez circonspects dans vos jugements. Vamidu Talmidim Arbe, formez des élèves, beaucoup d'élèves. Vasu Seyag la Torah, et mettez des barrières à la Torah. Ok, tout enfant, toute personne connaît la première Mishnah de la Mishnah du traité des principes. Mais il faut comprendre de quoi on parle. Première des choses, le Maharal de Prague se pose la question. Sachez, Mori Rabbi, le Rav Zuckerman, dit, il y a la Mishnah de la Emouna. La Mishnah de la Emouna, c'est le Kuzari. Mais il y a aussi qui a été écrit par Rabbi Yehuda Lévi. Mais il y a aussi la Gemara de la Emouna, la Gemara qui se commentaire de la Mishnah, c'est le Maharal de Prague. Et il y a aussi, je continue parce que c'est tellement extraordinaire, il y a aussi le Shulchan Aruch qui va fixer la loi, c'est Oroth du Rav Kook. C'est-à-dire, Lorsqu'on traite le kuzari, c'est la base de la Emouna. Mesilat Yesharim, Shmoné Prakim, les 8 chapitres du Rambam, la voie des justes du Ramchal, c'est la base du Moussa. Quand on rentre dans le monde du Rabbi Yehuda Lévi, c'est la base de la Emouna. C'est écrit en 5 chapitres, 5 discours très concis, très, très courts, qui va être après développé dans tous ses détails grâce au Maharal de Prague. Et le Maharal de Prague pose la question. Donc, quand on étudie Maharal de Prague, on ne sort pas de Rabbi Yehuda Lévi. On est dans l'explication de l'intériorité de Rabbi Yehuda Lévi. Et le Maharal de Prague pose la question. Il y a une erreur au niveau de la première phrase. Il y a marqué « Moshe kibel Torah mi Sinai ». Moshe a reçu la Torah du Sinai. C'est une erreur, dit le Maharal. On aurait dû écrire « Moshe kibel Torah be Sinai ». Moshe a reçu la Torah, pas du Mont Sinai, mais au Mont Sinai. Et lorsqu'on veut mettre en français l'endroit, à quel endroit, la conjonction de l'endroit, alors on est obligé d'utiliser la lettre B, Behar Sinai, ou B Sinai, et pas Mi Sinai, pas le même de la provenance, qui veut dire du Mont Sinai. Parce que ce n'est pas le Sinai qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Est-ce que jusque-là, vous êtes clair? Il y a fait. Donc, c'est une question du Maharal de Prague. Que répond le Maharal de Prague? Il dit, il faut comprendre la Mishnah de cette façon. Moshe kibel Torah. Moshe a reçu la Torah du niveau que la Torah s'est dévoilée au Sinaï. Du niveau du dévoilement au Sinaï. Donc, c'est comme si on a reçu la Torah du Sinaï. De manière... on aurait pu penser, d'une autre manière, notre niveau au Sinaï, on aurait reçu une Torah beaucoup plus grande. Ou si on avait un niveau inférieur, on aurait reçu une Torah plus petite. Mais on a reçu la Torah en fonction de ce qu'on pouvait recevoir lorsqu'on était au niveau du Sinaï. C'est-à-dire que la Torah, on l'a reçue en fonction du niveau qu'on avait lorsqu'on est sorti d'Égypte et après 40 jours, après les 50 jours du Homer. Que veut dire Moshe Kibel? Kibel, retenez ça pour tout le livre du Kuzari, parce qu'on va le retrouver, et on rappelle que Rabbi Yehuda Lévi, c'est traduit de l'arabe, et le mot qui va être utilisé, c'est souvent Kabbalah ou Messira, recevoir et transmettre. Mais ici, Moshe Kibel Torah Misinaï, qu'est-ce que ça veut dire? De quelle manière on aurait pu expliquer le mot Kabbalah, recevoir? Allez, Yeshivat Online, je vous écoute. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalah? Son élève Yeshiva. Yeshiva, c'est OK, il y a un rab qui est assis, mais il y a les élèves qui parlent.
Recevoir.
Rechauffer la salle.
Accepter. Pas que recevoir, accepter aussi.
Accepter la Torah.
Dans recevoir, il y a accepter aussi. Oui.
OK, recevoir, accepter, c'est vrai. Mais j'aurais pu recevoir aussi un livre de mathématiques, j'aurais pu recevoir un cadeau, j'aurais pu recevoir et accepter beaucoup de choses. De quelle manière précise quand on entend Moshe Kibel Torah, Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'il a reçu, Moshe?
Il a compris. C'est la Kibul intériorisée.
Il a, oui.
Kibel Alatsmo?
Kibel Alatsmo, il a accepté. Oui. Aussi.
Il était prêt à
avoir une expérience.
Comment vous dites Kabbalah? Comment?
Une expérience de vie, Emmanuel. Oh.
Il a fait une expérience. Mais de quelle sorte d'expérience? Comment il a reçu la Torah?
C'est-à-dire qu'il est...
Comment tu peux recevoir la Torah?
Il était prêt à recevoir la Torah qui existait déjà.
Nahon. Mais faites très attention. On a reçu Moshe, il a reçu la Torah que Hachem a donnée à Moshe. La Torah de Moshe. Comment elle s'appelle? Torah de Moshe. Nahon, on n'a pas reçu la Torah avec laquelle c'est du niveau de Moshe, elle est appelée au nom de Moshe. Je donne un exemple très simple. Dans la Torah, il y a tout marqué. Non? Il y a tout marqué dans la Torah. Mais nous, ce qu'on étudie, c'est la Torah de Moshe. Il y a des choses qui sont marquées et si la science ne les avait pas découvertes, les secrets dans ce monde au niveau matériel, nos rabbins n'auraient pas réussi à découvrir ça. Une fois, un élève m'a dit, ils ont retrouvé, grâce au code de la Torah, ils ont retrouvé le tableau de Mendeleïev dans la Torah. Oui, mais merci à Mendeleïev qui a trouvé le tableau des éléments, l'ordre des éléments. Grâce à ce qu'il a trouvé, après, on a pu voir les codes dans la Torah, on peut découvrir d'autres secrets. Nous, mon cher Abinou, son but, ce n'est pas dévoiler les codes de Mandeleïev, les éléments de Mandeleïev. C'est dévoiler ce que Hachem veut dire à Moshe, au peuple d'Israël. Maintenant, de quelle manière il a reçu, de quelle manière au Kibel, il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse. Retenez pour toute votre vie, Kabbalah égale Nevoa, prophétie.
On peut le comprendre fois... autrement. On peut le comprendre dans le sens où il y a eu, voilà, à Shavuot, c'est Matan Torah. On n'a pas reçu forcément la Torah. Que Toko nous l'a donné, on ne l'a pas reçu. À Purim, on le recevra, par exemple. Mais on ne l'a pas reçu à Shavuot même. On l'a reçu à Kippour.
Alors, très très bien. Vous m'aidez dans l'explication. Quand on parle à Shavuot, on parle de Matan Torah. Hachem nous a donné la Torah. Alors, monsieur, vous dites exactement ça. On n'a pas reçu les tables de la loi. On les recevra qu'à Kippour. Même mieux que ça, on n'a pas vraiment accepté. Vous avez dit Kabbalah, c'est accepter. Accepter de vouloir réaliser pleinement. Ça, on l'a reçu à Purim. Ça, on l'a fait à Purim. Le mot Kabbalah veut dire réceptionner au niveau prophétique. Et c'est ça la force du kabbaliste. Le kabbaliste, il veut devenir prophète. Kabbalah, il veut se rattacher à l'esprit prophétique. Tout sage, toute personne, tout juif, il veut se rattacher à l'esprit prophétique, à la névoie. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Kibel Torah, c'est en fait prophétique. Rappelez-vous, ça c'est des choses de base qu'il faut connaître, on ne comprend pas la suite, on nous bloque pour la suite. Torah, le mot Torah vient du mot Hora'a, enseignement.
Non.
Min de Hashamaim. C'est quoi Hashamaim? Je vous rappelle, ça c'est Yad et ça c'est Yadaim. Shamaim, c'est pluriel de Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Shamaim, ça veut dire le là-bas du là-bas. Sham, le là-bas du là-bas. Le Rav Zihuda disait que ça veut dire l'au-delà. C'est-à-dire qu'on a reçu l'enseignement Hora'a de l'au-delà. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de Torah, on parle seulement de on parle seulement de prophétie. Et donc, si toi, Rabbi Yehuda Lévi, tu veux dire, je veux comprendre ce que la Torah, je veux rentrer dans le monde de la Torah, forcément, tu dois appartenir à la prophétie. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Lévi commence par le chalom, par le rêve. Parce que le rêve, c'est un 60e de la prophétie. S'il avait commencé par un professeur d'université qui ne croit pas à la prophétie, qui n'est pas capable de s'ouvrir à l'esprit prophétique, on ne peut pas discuter avec lui. Parce qu'on parle d'un autre niveau et qu'une personne elle doit être prête à recevoir cet autre niveau qu'est la prophétie.
Rav, excusez-moi, pourquoi on dit alors que Chacham Adif Minavi?
Chacham Adif Minavi. On n'a pas le droit de fixer la halakha en fonction de la prophétie. Sauf mon cher Rabbi. Pourquoi? Parce que regardez, je vous vois ou je ne vous vois pas là?
On vous voit.
Je vous vois. On se voit, mais on se voit à peu près. Tous les prophètes ont vu la réalité, mais à peu près. Ils ont vécu la destruction du Beth Amikdash. Prenons le prophète Jérémie. Le prophète Yirmiyahou, il va vivre la destruction du Beth Amikdash. Il va crier l'horreur. Arrêtez, si vous continuez votre comportement d'idolâtrie, de mauvaises mœurs, etc., on va arriver à la destruction du Beth Amikdash. Je l'ai vécu, ce message-là. Et Béhémeth, Hachem l'a transporté dans le temps et lui a fait vivre la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, on commence à lui poser des questions. Quelle était la longueur du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem? Combien de chiffres? En chiffres, combien il va avoir de morts? Yirmiyahou n'est pas capable de répondre dans les détails. Il dit, il va avoir des morts. Le Beth Amikdash, il est en train de brûler. Mais combien de temps ça va durer? Combien de minutes ça va durer? Lorsqu'on rentre dans les détails, le Navi est impossible de connaître les détails. Le seul prophète qui connaissait les détails, dans tous les détails, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que lui, voyait avec un écran transparent. Bas paklaria meira. Donc Moshe Rabbeinu pouvait, on a fixé la halakha de Moshe, en fonction de la prophétie, c'est le seul. Maintenant, à partir de après Moshe, on ne fixe la halakha qu'à partir du sage. Maintenant, la réponse, c'est que tous nos sages d'avant, de l'époque des prophètes, ils étaient aussi prophètes. Shmuel, il va fixer la halakha, mais c'est aussi un prophète. Mais quand il fixe la halakha, il met en avant le côté rationnel qui va expliquer la névoie. Il va expliquer de manière chorma, sagesse, rationnelle, il va expliquer ce qu'il a vu. C'est ce que va faire Akadosh Baruch Hu. Il va se dévoiler à Yermia, il va lui dire, Ma'ataro, qu'est-ce que tu vois? Je vois l'arbre actif qui donne ses fruits. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as bien fait de voir. Il y a d'abord une vision, esprit prophétique, la névoie, et ensuite, le Navi doit interpréter ce qu'il est en train de voir. Et ça, ça va être la place du Chacham. Chacham a dit une Navi. C'est un peu, Slicha, l'exemple, mais vous allez bien comprendre. Une personne qui a vécu la Shoah et un docteur sur la Shoah. Docteur d'histoire sur la Shoah. Il va donner des détails que la personne qui a vécu la Shoah ne connaît pas. Donc, on va faire plus confiance quand on va devoir aux chiffres, aux statistiques, de quelle manière ça s'est passé. Dans les détails, on va faire confiance plus aux savants. Mais quand on cherche le vécu et l'expérience, c'est sûr qu'on fait plus confiance au prophète. On fait plus confiance à celui qui était dans la Shoah que le docteur sur la Shoah. C'est-à-dire, Chacham Adif Minavi. Dans le long texte du Rav Kook dans la fin de Horot, qu'il faut lire, d'ici 10 ans, on arrivera à Horot. Bezrat Hashem, Hashem nous donne la force. Maintenant, regardez. Moshe Kibel Torah Misinai. Le Maharal de Prague nous dit donc, il a reçu Nevoah, le niveau qu'on avait au Sinai. Sarah, là déjà on a un problème. Il a transmis à Yehoshua. Lorsqu'il y a une transmission, il y a une chute. Vous sentez là? Lorsqu'il y a une transmission, il y a une chute. Moshe, c'est le soleil, Yehoshua, c'est la lune. La lumière de la lune n'est pas celle du soleil. Donc forcément, il y a une chute au niveau de la transmission. Yehoshua l'Izkinim, on a l'impression qu'il n'y a pas de chute. Il n'y a pas marqué que Yehoshua l'a transmise aux anciens. Pourquoi? Parce que la Shrina était là, l'esprit prophétique était là, on était encore à l'époque des prophètes. Zekenim, les Nevi'im, les anciens aux prophètes. Ou Nevi'im et les prophètes l'ont transmise aux gens de la grande assemblée. La deuxième fois, le mot Messaroua, ça veut dire qu'il y a une deuxième chute. Qu'est-ce qui s'est passé entre les prophètes et les gens de la grande assemblée? Ben ici, il y a la fin de la prophétie. Hachem se tait. Hachem ne parle plus au monde. C'est quelle époque? L'époque de la destruction du premier temple. Et on s'est arrêté là la semaine dernière qu'à partir du moment où il y a la fin de la prophétie, alors naît la philosophie. Naît les religions. Le bouddhisme, c'est à la même époque. Thalès, qui sont les premiers philosophes, qui sont des philosophes scientifiques, Thalès, Pythagorès, Pythagore, ce sont des philosophes qui vont commencer à naître parce que Hachem se tait. Il n'y a plus, il y a une disparition de la prophétie. Et là, on arrive à un nouveau monde qu'il faut, où le vécu, l'expérience prophétique disparaît, et on va penser le monde. On va penser le monde. C'est comme si les rescapés de la Shoah disparaissent, on va devoir réapprendre, retrouver rationnellement l'existence de la Shoah, les conséquences de la Shoah, sans avoir une personne qui a vécu ça. Vous sentez le malaise? C'est un malaise terrible. C'est comme les Avdil, où toute une époque où il y a des poètes, à un moment donné, la poésie disparaît, et on se pose la question, y a-t-il vraiment des poètes? Y a-t-il vraiment des poètes? Est-ce que cette époque des poètes a-t-elle existé, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'expérimente plus la présence divine dans ce monde. La naissance d'un Tchèque Nessetakdola, des gens de la Grande Assemblée à l'époque de Ezra, et dans le monde entier, il va y avoir un retentissement énorme. La destruction du Temple de Jérusalem va entraîner une recherche du divin de l'homme vers Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, l'homme n'avait pas besoin de chercher Dieu. Dieu se dévoilait à l'homme. Dieu se dévoilait à l'homme. Personne n'était athée à cette même époque. Personne ne pouvait penser une seule seconde que Dieu n'existait pas. Parce que c'était un fait. Le divin était un fait. Était vécu comme quelque chose, un fait. Chez les lieux de la tri, etc., etc. Tout le monde sentait la présence divine. Chacun l'expliquait différemment. Chacun voulait l'interpréter différemment. Est-ce qu'on peut pas? Mais c'était un fait. Le divin n'était pas remis en question. L'existence de Dieu n'était pas remise en question. Et seulement après la destruction du premier temple, où la présence divine disparaît, alors là, il y a la naissance de la sagesse, la chorma. Donc c'est du côté de l'homme vers Dieu et pas de Dieu vers l'homme. Sachez que tout le temps, le côté de nous vers lui, c'est l'avodah zara. Pourquoi il y a un danger de l'avodah zara? Pas de l'avodah zara, il y a un danger de l'avodah zara. Nous, c'est tout le temps de lui vers nous. de lui vers nous. Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est Minashamaim la Haret, de Sham Sham, de l'au-delà vers nous. On doit être prêt à recevoir la Torah, c'est de lui vers nous. Ce n'est pas nous qu'elle envers lui. La philosophie, c'est nous vers la chose. C'est de l'homme vers la chose. Et là, on revient au début. Est-ce que HaKadosh Baruch Hu a besoin de nous? Les philosophes ont répondu que non. Comment peux-tu penser une seule seconde de dire que Hachem a besoin de nous? Parce que le fait de dire qu'il a besoin montrerait son manque. Alors regardez comment c'est, de quelle manière c'est marqué. C'est marqué ici. On est dans le texte du Kuzari. Tac, tac, tac. En est élaboré l'oratson velocina, qui una la mikola rabzim kola kavonot. Dieu n'a ni volonté ni haine, car il est au-dessus de tout ça, de tous les désirs. Si on pense une seule seconde qu'il a besoin de nos prières et de nos mitzvot, cela voudrait dire qu'il est imparfait. Et s'il est imparfait, ça contredit la définition même que Hachem est parfait. Par conséquent, Hachem n'a pas besoin, parce que le fait d'avoir besoin exprime un manque. Vous savez ? Donc ici, de manière très claire, la question des philosophes. Lorsqu'on parle ces questions à des gens religieux, des gens du peuple juif, des juifs religieux, ils disent ça, c'est des questions philosophiques. Quoi faire que le Maharal de Prague se pose ces mêmes questions? Il faut répondre à ces questions. Alors, on va répondre à ces questions pour ne pas rester avec trop longtemps avec des doutes dans notre tête. On y va. La philosophie a dit Dieu n'a pas besoin de nous. Pourquoi? Parce que Dieu est absolu. Dieu est pure vérité. Dieu est aimé. Dieu est au-dessus de tout changement. Donc, il n'attend rien de l'homme. Parce qu'ici, encore une fois, il attendait de l'homme. Ça voudrait dire qu'il a un manque. Un manque, ça va à la contradiction de Dieu qui est perfection, parfaite, au-dessus de toutes les perfections. Et par conséquent, Dieu n'a pas besoin de nous. Les idolâtres, eux, ont dit « Dieu a besoin de nous ». Vous connaissez l'expression « Il faut faire des sacrifices à Dieu pour calmer les dieux, pour ne pas que le ciel nous tombe sous la tête, etc. sur la tête ». Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Dieu a besoin de nous. Et il attend de nous de le servir, de le respecter, de respecter ce qu'il dit, et de lui apporter des sacrifices, de lui apporter de la nourriture, de lui apporter des enfants en sacrifice, même, chas v'shalom. Tout ça parce que Dieu a besoin de nous. Et le monde s'est divisé en deux. Pas en Dieu, mais en deux. On a le monde philosophique qui dit « Dieu n'a pas besoin de nous ». Goy, Avodaza, qui dit « Dieu a besoin de nous ». Et les philosophes ne peuvent pas comprendre l'homme religieux, et l'homme religieux ne peut pas comprendre les philosophes. Maintenant, sachez que le Ham Israël, il est toujours où? Dans la synthèse. Au milieu, Toda Rabba. Il est toujours Ba'emtsa. Il est toujours au milieu. Jamais dans les extrêmes. Si vous trouvez des extrêmes, alors ce n'est pas là où on pourra trouver le divin qui se dévoile à travers Israël. Mais il faut comprendre. Lorsque j'avais donné ce cours, donc j'avais divisé les philosophes, etc. Et j'avais raconté en fait que cette question, elle m'avait dérangé énormément. Pourquoi? Parce qu'on m'avait posé aussi cette question. Et moi, hein, je ne savais pas quoi répondre. J'avais près de 20 ans. Et ça me dérangeait terriblement. Pourquoi? Parce qu'une question qui est si fondamentale, est-ce que Dieu a besoin de nos mises? Est-ce que Dieu s'intéresse à mes tfilotes, à mes prières? C'est une question si fondamentale auquel je n'avais pas une réponse claire. Alors que savoir réchauffer un schnitzel sur la plaque le Shabbat, je savais exactement comment faire. C'était quand même triste. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de manger un schnitzel Shabbat ou préparer un thé Shabbat. Je savais exactement comment préparer un thé Shabbat. Mais cette question, est-ce que Hachem s'intéresse aux détails de mes mitzvot? Ça, je ne savais pas. Et j'avais donné un shiur où un ami d'enfance était à ce shiur-là. Et il m'a dit, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes la réponse. Alors regardez ce qu'on a l'habitude de raconter à ce sujet-là. C'est vrai? Il me raconte l'histoire suivante. Il était une fois Shimon, un enfant. Il regarde sur son agenda. À l'époque, il y avait des agendas avec des feuilles. On tournait, on voyait la date. Et il y avait marqué « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa ». Et qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est lui qui me raconte devant tout le monde cette histoire pour faire comprendre si Dieu a besoin de nous ou pas. Et il dit, lorsqu'il voit que c'est le jour de l'anniversaire de papa, il décide de faire un cadeau. Cette histoire, vous pouvez la raconter à toute personne que vous rencontrez. C'est un message très important. Et cet enfant décide de faire un cadeau. Il va dans le, dans un magasin de chaussures, de sport, parce qu'il sait que son père a décidé de faire du sport. Et il y achète les nouvelles Adidas, dernier modèle, papier cadeau, et il va au bureau de son père. Lorsqu'il arrive au bureau de son père, il est obligé de monter 90 étages. Il rentre première secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire, et on le fait rentrer dans le bureau de son papa. Lorsqu'il rentre dans le bureau de son papa lui dit « Shimon, Baruch Haba, bienvenue Shimon, béni Yakar, mon fils adoré. » Shimon dit à son père « Abba, yom ou ledet sa mère, yom ou ledet sa mère, joyeux anniversaire. » Et lorsqu'il lui dit « Joyeux anniversaire », le père, il fond, « Bezrat Hashem, bekorvet lecha David, je lui ai dit lecha, yom ou ledet sa mère, » c'est « Il fondra et il dira « Oh là là, tu as pensé à mon anniversaire, mais ça me fait plaisir. » Et il lui dit « Abba, ina matana shelcha, papa, voici ton cadeau. » Il prend le cadeau, il ouvre le cadeau, il trouve les Adidas dernier modèle, et le père dit « Mon fils, c'est exactement ce que je voulais, merci, merci. » Il embrasse, il embrasse, il embrasse. Le fils sort du bureau de son père avec chaud au cœur, « J'ai fait une super mitzvah. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'histoire, elle commence. La caméra fait un dézoom, c'est vrai, et il revient la caméra sur le bureau. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le père remettre les chaussures dans le paquet, fermer le paquet, prendre le paquet et le mettre à côté. Et sur le bureau, on voit le nom du père. Il y a marqué Reuven Cohen, directeur général de Adidas. Et là, mon ami, qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait, tu comprends, David? C'est exactement la même chose. Hachem Behemet, il n'a pas du tout besoin de nos mitzvot. Comme ce père qui n'a pas besoin, hein, qui est directeur de Adidas, il a besoin des chaussures Adidas, mais il veut qu'on fasse des actions de prouver notre amour. Mais en vrai, il n'a pas besoin. Lorsqu'il finit son sipour, je lui dis, est-ce que tu as fini de raconter cette histoire? Il fait oui. Donc, de là, j'apprends. Il me dit que Dieu n'a pas vraiment besoin de nos mitzvot. C'est comme s'il a besoin, il nous fait semblant. Et là, hein, ce même jour, j'avais terriblement mal à la gorge. Et je lui dis, si je n'avais pas mal à la gorge, j'aurais crié tout ce que je pouvais crier. Que si BMF, si BMF, si vraiment. Et bon, Hachem, que c'est faux. Hachem n'avait pas besoin de nos mitzvot. Alors, on devrait arrêter de faire des mitzvot parce que je ne suis pas un enfant. Qu'est-ce que je veux dire, je ne suis pas un enfant? Si l'action que je fais, elle ne fait pas un acte concret de faire avancer l'histoire vers le bien, de faire avancer que je ne suis pas un enfant. Si vraiment tu as besoin des chaussures, alors je serai le premier à te les acheter, à te les apporter. Mais si c'est seulement pour la vodala, si c'est seulement pour me faire croire, me faire plaisir que tu as reçu un cadeau, alors que tu es vraiment, 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 tu n'as pas besoin, alors je ne veux pas recevoir, je ne veux pas me casser la tête à t'apporter des chaussures. Bon, Hachem, que ce n'est pas du tout ça. Que notre service envers Akadosh Baruch Hu, Hachem, on a besoin. Et on y va. Le Midrash dit, c'est-à-dire, le Midrash dit la chose suivante au nom de Rav Shmuel. Rav Shmuel dit, Akadosh Baruch Hu, it ava. Akadosh Baruch Hu a eu le désir de la sotlo, de faire pour lui shoot à foot, une association, be batartonim, dans les mondes d'en bas. D'après ce midrash, d'après Rav Shmuel, on est en association avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi une shoot à foot? Une association dans une entreprise, c'est très simple.
Donate is connected.
Une partie, toi tu feras ça, et moi je ferai ça. Une fausse association, c'est on me fait croire que je suis associé, alors que c'est le deuxième qui fait tout. Non, le Midrash dit qu'on est associé, shoutaf, ensemble dans ça. Maintenant, de quelle manière? Et on explique. Les philosophes ont dit, Hachem n'a pas besoin de nous. La première étape, c'est qu'il est vrai. En effet, Hachem n'avait pas besoin de nous. Il est absolu pour créer un monde, pour emmener le monde là où il veut. Il n'a pas besoin de la créature. Il est au-delà de la créature. La créature, l'homme vit jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem. Mais Hachem, il est bien au-dessus de tout ça. Donc, la première étape, Hachem n'a pas besoin de nous. Deuxième étape, et c'est ça toute la force de la Torah dit, Hachem a eu le désir d'avoir besoin de nous. C'est ce que dit le Midrash. Hachem a eu le désir. Vous savez comment on dit désir en hébreu? Le désir, on le dit ta'ava. Ta'ava, désir. Ce n'est pas rotse, ce n'est même pas vouloir. Ratson, volonté. Ta'ava. En général, de dire qu'un homme a un désir, c'est très grave. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit le mot tava, on ne peut pas donner une raison logique à ce désir. C'est comme on dit en hybride aujourd'hui, zébali, ça me vient comme ça. La matarot, c'est pourquoi tu veux ça? Bali, il me vient comme ça, sans aucune explication logique. C'est grave, un homme qui ne peut pas donner une explication rationnelle. Et là, le Midrash veut nous exprimer que tu ne peux pas comprendre le pourquoi Hachem a voulu avoir besoin de nous. Et je vais vous dire une phrase qu'il faudra retenir parce qu'on aura l'occasion de la retrouver. Kachazé. Comme ça, il a voulu parce qu'il a voulu. Il a désiré Dieu parce qu'il a désiré. Il a eu le désir d'avoir besoin de nous. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, alors maintenant, il a besoin de nous. Ça marche? Je répète, c'est un peu compliqué. Les philosophes ont dit, il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. L'Avodah Zarah, l'idolâtrie, dit, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos prières, Dieu a besoin de nos misotes. La Torah, elle est au milieu. Et elle explique ça en trois étapes. Béhémeth, en vérité, Dieu n'a pas besoin de nous. Deuxième étape, Dieu a eu le désir d'avoir besoin de nous. Troisième étape, Hachem maintenant a besoin de nous. Il compte sur nous. On est en association. C'est lui qui a désiré avoir cette association. Le Rav Cherki donne un exemple qui n'est valable que pour le monde Sfarad. Désolé pour nos frères Ashkenaz qui sont parmi nous. On est vendredi après-midi. On est veille de Shabbat et la mère juive prépare le couscous. C'est-à-dire, lorsqu'il prépare le couscous, son enfant est en train de jouer. Elle vient voir l'enfant, vient voir sa mère et dit Ima, y'a t'es la zor là. Maman, je veux t'aider. La mère dit mon fils, je suis pressé, je peux pas, je dois faire le couscous. C'est Shabbat, il rentre tôt, c'est Shabbat d'hiver. Je dois finir avant l'entrée de Shabbat. Va jouer. La mère a-t-elle besoin de lui? Non. Peut-elle faire le couscous toute seule? Oui. Et à un moment donné, l'enfant revient et dit « Maman, s'il te plaît, je veux t'aider. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, s'il y a des blagues en plein milieu des ici pourris, je vais pas réussir. Mais bon, baisons ta chaîne. Il arrive et l'enfant, il a convaincu la mère et la mère a eu le désir de faire participer son fils au projet du couscous pour Shabbat. Elle lui dit, ok, épluche les pommes de terre. Et il commence à éplucher les pommes de terre. Maintenant, la mère a-t-elle besoin ou pas besoin de lui? Bêtard, c'est sûr qu'elle a besoin de lui. Parce qu'elle compte sur lui maintenant. Et s'il a mal épluché les pommes de terre, il deviendra réparer. Il devra emmener des plaies. Il devra emmener le déluge. Il devra emmener détruire la tour de Babel. S'il y a des choses qui sont mal réalisées, alors qu'il a donné les clés du jardin, les clés du monde à l'homme, parce qu'il a voulu que l'homme soit choutave dans l'histoire des hommes, soit associé dans son histoire du projet du monde. Et si l'homme fait une faute, alors il va empêcher la réalisation, peut-être pas complète, mais il va retarder le processus du projet divin dans ce monde. Parce qu'on est en association avec Hachem. Hachem a besoin des tuyotes. Maintenant, il a voulu avoir besoin des tuyotes et dépendre de mes mitzvot. Et si Chas v'Shalom, on fait l'inverse des Averot, ça empêche le dévoilement du projet divin dans ce monde. Oui, on est capable de faire avancer ou faire reculer le projet divin. Et donc, c'est de cette manière qu'on va pouvoir expliquer que Hachem a vraiment besoin de nous. Une question, monsieur Atias, Shalom, d'abord, monsieur Atias, je suis très content que vous soyez là. Mais pourquoi il a créé l'homme? L'homme, c'est le seul être qui peut influencer ou ne pas influencer le monde, le projet divin. C'est le seul qui est doté du libre arbitre pour faire avancer le projet ou au contraire faire reculer le projet divin. Il a voulu faire une tova. Le Ramchal dit, il a voulu faire un bien énorme à l'homme. Il lui a donné une liberté d'action et il a voulu le faire participer au projet. Comme la mère, quand elle vit son enfant, au lieu de laisser jouer, où c'est quelque chose de sympathique, mais c'est il s'occupe seulement de sa vie personnelle. La mère a élevé son enfant, élevé, éduqué, à un niveau beaucoup plus grand. Au lieu de jouer tout seul dans ton coin, tu vas participer au projet de faire du bien à toute la famille en aidant à faire le couscous. Alors, c'est exactement ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu donne les clés du jardin à l'homme, Adam Harishon. Il lui dit, regarde, va y karoto le Gan Eden. Et il a pris, il a mis dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il lui dit, Léovda ou Léchomra, tu dois protéger le jardin et tu dois t'occuper du jardin d'Éden. Parce que si les animaux viennent à détruire le jardin d'Éden, toi, tu pourras venir réparer le jardin d'Éden. Mais si, Chas v'Shalom, l'homme vient à détruire le jardin d'Éden, qui pourra le réparer après toi? Tu es responsable du monde. L'homme a raté. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé une nouvelle façon d'être homme qui s'appelle Israël. Et Israël ne pourra jamais rater son projet. Et tout le but du Kouvari, c'est d'expliquer ça. Que Israël est la nouvelle façon d'être homme qui prend dans toute sa grandeur la responsabilité du monde. La responsabilité du monde. Et c'est pour ça que le roi, qui au début du Kouvari, avant de se convertir, représente le monde, il rencontre le rabbin. Et le rabbin, hein, il est en train de lui dire, l'homme est responsable de ce monde. Si le bien vient, c'est parce que l'homme doit faire du bien dans ce monde. Si le mal vient dans ce monde, c'est parce que l'homme fait du mal dans ce monde. On est dans les parachutes où c'est clair, le monde s'est mal comporté, il y a eu le déluge. Le monde s'est mal comporté, il y a eu la séparation des nations. Le monde s'est mal comporté, il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le Ham Israël vit ça, qu'on ait une responsabilité sur le monde. Une responsabilité sur le monde. Pourquoi? Parce que Hachem nous a fait associer. C'est un cadeau énorme. C'est un cadeau énorme qu'on a. On n'est pas comme une pierre où on ne peut pas faire avancer le monde. On existe, c'est tout. On est dans le décor. C'est une différence entre dans une pièce de théâtre, lorsque tu rentres, il y a le décor. Il y a le décor, c'est comme dans le monde minéral, végétal, animal. Et ensuite, il y a les acteurs. Les acteurs, tu arrives à comprendre pourquoi il y a ce décor. Ils vivent, ils font vivre la pièce. Ils font vivre ce que l'auteur de la pièce voulait transmettre. Ben, ça, c'est l'homme. L'homme, il est dans un décor, c'est le monde. Et c'est l'acteur de ce que l'auteur veut qu'on réalise. Le problème, c'est qu'on nous a volé le scénario. Et donc, tout est tombé. Les seuls qui ont retrouvé le scénario, c'est Israël. Mais Israël, il a un autre problème. C'est que même s'il a reçu le scénario, il ne va pas le jouer. Il faut mettre du temps avant de le jouer. Donc, on doit reprendre conscience de quel acteur sommes-nous, de prendre conscience du scénario qu'on doit jouer, et d'être sur la scène. Ce n'est pas une scène. Ce n'est pas après, au bout de la pièce, on finit et on retourne, c'est l'imaginaire. Non, c'est la chose la plus concrète de toutes les concrètes choses qui existent dans ce monde. C'est le monde, c'est la métier, c'est la réalité. Nous, on doit réaliser la réalité. Réalise, bizarrement, c'est les mêmes lettres qu'Israël. Israël, c'est réalise. Réalise. Tu réalises. Réalise. Israël, c'est réalise. C'est bien?
Je peux poser une question, s'il vous plaît?
Oui.
C'est par rapport à ce que vous avez dit au tout début, en ce qui concerne Dieu n'a pas de manque, donc il n'a pas besoin de nous. Est-ce que justement on peut dire que Dieu a le désir, puisqu'il y a la création à partir de Bereshit, le Bet, et qu'à ce moment-là, il y a deux, donc il y a une association avec l'homme qui a raté au moment de la faute, qui a été maintenant... Voilà ce que vous venez de dire à l'instant, mais c'est le lien entre le désir dans le sens de nous ne sommes pas nous capables de créer, mais nous devons participer à l'accomplissement de la création. Et là, ce n'est plus dans la question du besoin, mais du désir.
Quand Bereshit commence, ça exprime Dieu a voulu nous. Dieu a eu le désir de nous. Ce qu'exprime le bête, nous sommes le bête, nous ne sommes pas le Aleph. Nous sommes la continuité du Aleph, Aleph Bet. Il y a le Aleph qui a voulu parce qu'il a voulu, qui a désiré parce qu'il a désiré. Et maintenant, nous pouvons exister. Le Aleph a donné naissance au Bet. C'est le Av. Av, c'est le Père. Aaron donne naissance. Aleph Bet. C'est la base, c'est le principe de base. Mais il y a une volonté avant le Bet. Il vient du Aleph. Ava, vous savez ce que ça veut dire Ava en araméen et en hébreu? Ça veut dire vouloir.
Oui.
Avec Aleph. Av, ça veut dire vouloir. Qu'est-ce qu'on exprime par là? On exprime qu'il y a une volonté, il nous a voulu. On ne s'est pas voulu tout seul. Maintenant, viennent les philosophes et ils disent, on est là par hasard. Il n'y a pas une volonté de nous vouloir. On est ici par hasard. Et rien de pire à dire à un homme que nous sommes là par hasard. Il n'y a rien de pire. Tu peux prendre le plus grand, Bill Gates. qui a réussi ce monde, etc. Non, ce monde, hein, matériel, spirituel, faut, c'est un autre compte. Mais au niveau matériel, il a réussi, il a compris le monde, il a su développer le monde, etc. etc. Si les parents de Bill Gates, ils se disputent un jour avec Bill Gates, que je ne lui souhaite pas. Et ses parents lui disent, tu sais, Bill, on va t'avouer quelque chose, toi et maman, maman et moi. C'est qu'on ne t'a pas voulu. La première des choses qu'il fait, avec tout l'argent qu'il a, il se jette de la fenêtre. Parce que l'homme ne peut pas supporter qu'il n'ait pas voulu, qu'il est là par hasard, qu'il n'a aucune signification.
C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Oui.
Voilà. Donc lui, le philosophe, vient dire à l'homme un message terrible. Il ne sait pas. Il vient dire l'homme n'a aucune signification. Et si l'homme n'a aucune signification, on ne le désire pas, l'homme est libre de faire tout ce qu'il veut. Il n'y a aucune morale, puisqu'il n'y a aucun but. Et donc, on a mis de côté aujourd'hui, on, est une, on voit ça concrètement, les philosophes, on espérait qu'ils allaient trouver la vérité pour nous aider. Les philosophes n'ont pas trouvé la vérité, parce qu'ils arrivent, on ne peut pas trouver la vérité, et on est là par hasard. Et le philosophe n'a plus son poids aujourd'hui.
Tout donc, à fait, c'est l'histoire du serpent, mais... C'est l'histoire du serpent qui inverse.
Il n'y a que lui, exactement. Il n'y a que ce monde. Exactement. Maintenant, regardez. Le philosophe va dire, on va lire ce qu'il dit, comme ça on va pouvoir mieux comprendre ce qu'il dit. Donc d'abord, vous commencez à comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Le roi des Khazars, il a une autre expérience totale. Pourquoi il a une autre expérience? Parce que lui, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il va lui dire d'après vous? Allez, vous allez maintenant, d'après ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir deviner la suite du Khuzari. Qu'est-ce qu'il va lui dire le roi des Khazars à ce philosophe? Qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est très intelligent. Je n'avais pas pensé à ce que tu viens de me dire. Tout à fait, Kolakabod. Ah oui, c'est vrai que le fait d'avoir besoin de nous, ça montre un manque. Et donc, il n'attend pas nos mitzvot. Il a fait. Tu peux faire de la Gemara, c'est top, c'est dedans. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire, le roi des Khazars? Allez, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir lui dire? De dire, c'est Nehmat, c'est sympathique, mais quoi?
Moi, j'ai fait ce rêve.
Il a fait, mais moi, j'ai rêvé, moi, je l'ai rencontré, il est venu s'intéresser à moi. C'est ça la force. C'est-à-dire, tu me parles d'une chose que, c'est intéressant, on peut écrire peut-être un doctorat sur ça, mais moi, c'est une chose totalement autre que j'ai vécue. Puisqu'il s'intéresse à mon rêve. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda Lévi? Rabbi Yehuda Lévi, il fait « Cherche bien dans ta vie. » En fait, tu vas voir que tu as été voulu, que Hachem s'intéresse à toi. Mais il faut être assez yachar, assez droit pour être à l'écoute de ça. Mais si tu cherches le Emet, écoutez bien ça, si tu cherches le Emet, la vérité, comme le roi des Khazars qui cherche la vérité, alors tu auras un rêve et qui t'expliquera et qui te mettra sur la route. Les personnes disent, quand ils étudient le Khuzari, ils disent « Ah ben, les gens, ils n'ont pas de rêve. Bon, le roi des Khazars, il a un rêve, il a une chance. » Non. Rabbi Yehuda Lévi, vous nous enseignez que toutes les personnes, même les goïms, et quand je dis même les goïms, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire même les goïms qu'on a l'impression qu'ils sont loin de la prophétie, s'ils cherchent la vérité, ils trouveront la vérité. Parce que Hachem nous veut et il nous cherche. Et le fameux Ayeka, où es-tu, de Akadosh Baruch Hu, qui a posé la question à Adam Rishon, qui crie où es-tu, Ayeka? C'est permanent chez l'homme. Tout le temps, Hachem est en recherche de ce bête, comme vous avez dit, de notre création. Il nous cherche. Parce que c'est immoral de penser que Hachem a pu créer un monde sans vouloir rencontrer le monde, être en contact avec le monde qu'il a créé. Et les philosophes, ils ont, au nom de leur rationnel, qui pouvaient comprendre que ça, au nom aussi beaucoup de problèmes de Gava, d'orgueil. Ils n'ont pas accepté ça parce qu'ils ne comprenaient pas comment l'au-delà pouvait venir en contact avec le fini. Mais c'était aussi immoral qu'une mère, Chas v'Shalom, qui donne naissance à un enfant, abandonne, délaisse son enfant. C'est immoral un acte comme ça. La mère qui va donner naissance à son enfant, la première des choses qu'on lui fait ou qu'elle fait, c'est allaiter son enfant. C'est redonner la vie, continuer à donner la vie, pas redonner la vie, continuer à donner la vie à son enfant, continuer à parler à son enfant. Les nazis, Marché Mab, Chenizikha, nous ont fait des tests que si la mère ne parle pas, l'enfant, il est en danger de mort. Et là, elle continue à être en communication. Ça, c'est névoie. La névoie exprime la volonté morale du créateur de vouloir reprendre la communication avec les créatures. Et ça, c'est moral. Parce que abandonner l'être qui a été créé est immoral. Donc, pour rendre l'action de la création morale, forcément, il y a un évoi. Forcément, il y a la prophétie. Et une personne qui n'accepte pas la prophétie, c'est immoral. Ça voudrait dire que le monde est là par hasard. Et ça, c'est crié par le philosophe. Et pourquoi Rial, pourquoi Rabbi Yehuda Lévi, Rial, c'est les rachetés des votes de Rabbi Yehuda Lévi, pourquoi Rial prend ça pour nous dire, fais attention, il va y avoir des philosophes religieux qui vont te dire d'étudier même la Torah, qui vont te dire d'étudier les religions et parler de Dieu, mais ce n'est pas Dieu, parce qu'il parle sur Dieu. Ne parle pas de l'expérience divine que l'homme doit réaliser, comme le rêve qui est le début de l'expérience divine que l'homme doit réussir. On aurait dû tous étudier la Torah grâce au rêve. Se réveiller le matin, on connaît tout. C'est-à-dire, on n'est pas du niveau, on doit étudier par la prophétie, recevoir la prophétie.
C'est pour ça qu'ils dorment au Maroc de Meir.
C'est pour ça que les Bachor Yeshiva, en effet, ils ont. Quand on voit ça, c'est un pashut madim. On était à l'Yeshiva, j'étudiais à Ramor, il y avait souvent des grands ktinim, des grands officiers de l'armée, ils arrivaient à la Yeshiva. Nous, quand on était à la Yeshiva, c'est vrai, du fait d'étudier toute la journée, il fallait rester présent, etc., c'était très dur. Et nous, on savait que les gens de l'armée, c'était des gens qui pouvaient ne pas dormir pendant combien d'années ? Deux jours et demi, sans dormir, etc. Ils arrivaient à la Yeshiva, ils s'installaient, le Rav, il leur disait shalom, au moment où il leur disait shalom, tous en train de dormir. Tous les soldats en train de dormir. Et leur dit, attends, vous êtes des héros à nos yeux, vous restez éveillés trois jours sans dormir. Pitom, on vous dit shalom, même pas on a commencé à lire la Gemara, même pas on a fait, vous vous endormez. Elle disait, vous ne comprenez pas, que quand on est en action physique, alors le corps il reste éveillé, mais quand on commence à faire tourner le sérel, l'intellectuellement, c'est très difficile que le sérel influence le corps jusqu'à rester éveillé. En général, que l'étude d'un côté, il faut arriver à ce que ce soit une étude tellement vivante que le corps juste, il est influencé par cette étude, comme Moshe Rabbeinu. Qui va étudier, qui va recevoir par prophétie, et il reste éveillé 40 jours, 40 nuits sans boire et sans dormir. Justement, il y a fait. On ne parle pas d'une connaissance humaine. On parle d'une connaissance prophétique qui, justement, donne des forces à la vie et pas qui écrase la vie. Au contraire, on reçoit des forces, des puissances de vie et pas l'inverse. Le salaire.
Parce que les officiers, ils ont commencé à rêver.
D'accord. On avait dit la semaine dernière, on avait déjà dit que les officiers, c'est les premières étapes, nos soldats, même pas les officiers, c'est la première étape de la prophétie. Alors regardez, Ueno Yodea Otra, il ne te connaît pas, d'après les philosophes, Dieu ne te connaît pas. Kolcheken Sheyeda Kavanatha a plus forte raison qu'il ne connaît pas tes intentions. Uma Asecha, il ne s'intéresse pas, il ne connaît pas tes actes. Mais Kolcheken Shishmat Filotera, en fait, la Kavanatha, c'est Filotera. C'est clair qu'il n'entend pas tes prières. Veillerait tout notre et il ne voit pas tes actes. Vimyomroa philosophim shuberacha. Maintenant, il y a des philosophes qui vont dire qu'il t'a créé. On parle du créateur. En effet, il y a des philosophes du Moyen-Âge, repris par des philosophes arabes, dont j'ai du mal à prononcer le nom, qui disent, ils parlent d'un Dieu créateur. Mais il te dit, emomrim alze derech avara. C'est seulement une façon de dire, une façon de parler, de dire Dieu est créateur. Pourquoi ? Mipne shu ila taylot bivriat kol nivra. Lo mipne shu bekavana meito. Alors on y va. C'est parce qu'il est la cause de ta création, mais il ne t'a pas pensé. L'exemple que tout le monde donne, et je pense que c'est un très bon exemple, l'ampoule. L'ampoule est la cause. Et chez les philosophes, on cherche tout le temps la cause. La cause de toutes les causes. Et on arrive à la cause de toutes les causes, c'est Dieu. Mais Dieu ressemble à cette ampoule, d'après les philosophes. Cette ampoule éclaire, brille d'elle-même, mais elle n'a pas l'intention de briller, d'éclairer cet endroit de la salle. Ben, ils disent qu'il en est la même façon de Dieu. Dieu de lui, du créateur, sort la création, mais le créateur n'a pas l'intention de créer et ne s'intéresse pas à sa création. Alors pour nous, ça s'appelle de l'apikorsut. C'est quoi l'apikorsut ? C'est justement de rogner le divin. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que de dire que Dieu existe ou n'existe pas, c'est-à-dire c'est une chose. Les personnes qui vont dire Dieu n'existe pas, c'est grave, on va dire c'est des renégats. Mais une personne qui dit Dieu existe, mais ne s'intéresse pas à toi, ne s'occupe pas de toi, ne te pense pas, ne te veut pas, c'est aussi grave. C'est aussi un philosophe, c'est aussi un renégat. Donc c'est très 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 difficile. La Torah non seulement elle dit d'avoir la émouna de l'existence de Dieu, mais de la hashgarat Hashem, du fait que Akadosh Baruch Hu se réalise et surveille et s'occupe du monde dans ses moindres détails. C'est-à-dire, maintenant, pour comprendre ça, en fait, ça a été dit par le premier pasouk de la Torah. Puisque je vous rappelle que Rial, il s'intéresse, il écrit ses cinq livres, cinq discours en fonction des Chamisha Chumshei Torah. Les cinq livres de la Torah. Alors on y va tchik-tchak. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, Haaretz al tatohu vavohu. Bereshit bara Elohim. Elohim a créé Bereshit. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était tohu vavohu, etc. Maintenant regardez, Rashi, qui vient de France, nous dit, ça c'est le premier Rashi. Maintenant sachez-le, comme le Ramchal, vous étudiez Mishnat Yesharim. Alors on vous dit, Ramchal dit, les choses les plus connues sont les plus méconnues. La chose la plus connue dans la Torah, c'est le premier mot de la Torah. Au commencement. At the beginning. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ben, c'est le verset, nous dit Rashi, le plus méconnu et le plus incompris. Alors qu'ici, nous dévoile un secret énorme. Bereshit bara Elohim. Rashi nous dit, au niveau grammatical, c'est incorrect. Pourquoi ? Parce que Bereshit veut dire au commencement de quelque chose. Et forcément, on aurait dû dire Bereshit Abria, au commencement de la création. Or, il n'y a pas marqué au commencement de la création, il y a marqué au commencement de, il manque le mot. Et ensuite, il y a marqué Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, Rashi, de dire Bereshit, donc, ne veut pas dire au commencement. Mais il veut dire Bé pour Reshit. Reshit, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est comme ça que Rashi traduit le premier verset de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour Réchit que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pour Réchit que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est comme ça que la Torah lit ce verset. Et d'où il sait ça, Rashi ? Rashi, c'est ça de verset. Rashi, il sait ça du Zohar, de la.
Ton père.
Pardon ? Non, Rabbi Yitzhak, c'est pour. Pourquoi la Torah a commencé par Rashi ? Mais d'où il sait, Rashi, que c'est comme ça qu'il faut traduire ? Parce que c'est du Zohar. Le Zohar, Rabbi Yitzhak. Il y a 70 explications du mot Réchit. Rashi va nous donner les deux essentielles explications, pour Israël et pour la Torah. En Réchit et la Israël, en Réchit et la Torah. C'est-à-dire, pour Israël et pour la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre. Maintenant, écoutez bien, parce que là, on va voir la différence entre le philosophe et la Torah. Le philosophe, comment il traduit Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Haaretz ? At the beginning. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand Aristote, il a lu Bereshit, il était aux anges. Pourquoi ? Qu'elle veut dire ? Il croit aux anges, je le dis d'une autre manière. Aristote, parce qu'il a découvert quelle est la cause de toutes les causes. La cause s'appelle Elohim, parce qu'il y a marqué au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu est la cause du ciel et la terre. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'est-ce qui a commencé, qu'est-ce qui s'est passé au début. Mais qu'est-ce qui a marqué ? Allez, dites-moi vous, Shivat Online. Qu'est-ce que la Torah, quel est le message que la Torah nous donne ? Pas. Qu'est-ce qu'il y a eu au départ ? Shamaïm, arrête, Dieu crée le Seigneur. Au commencement, Dieu il a créé la terre.
Le but.
Il a fait, il nous donne le but. Alors, c'est le sujet qu'on dit. Bishville. Pour le but d'Israël, le monde est écrit. C'est-à-dire que Hachem a un but dans ce monde, ce que le philosophe nie totalement. Le philosophe voit qu'est-ce qui s'est passé au début, mais Dieu ne s'intéresse pas à nous. Tandis que dans la lecture de la Torah, comment le peuple hébreu, le peuple d'Israël doit lire la Torah, il doit dire de quel but, ce qui veut dire s'il y a un but, il y a une volonté de vouloir nous créer pour réaliser un but en shoot à foot, en association. Donc depuis le premier mot Bereshit, on met totalement de côté ce que la philosophie veut mettre en avant, que le monde est au hasard, que l'homme est au hasard, qu'il n'y a pas but, un but au monde. La Torah crie haut et fort qu'il y a un but, mais c'est pas seulement un but, c'est que nous sommes les acteurs et les responsables de ce but. D'où la morale. Tout ce qui va être moral, c'est les actes, les pensées qui vont faire avancer ce but. Et tout ce qui est moral, tout ce qui est mauvais, c'est les actes, les pensées qui vont faire reculer ou empêcher le but de se réaliser. Il reste 4 minutes. Question. Je vous écoute. 3 minutes. Alors, général, quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était ennuyeux.
D'où est-ce que Rachid sait que Rachid, c'est Torah et Israël?
Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne 70 explications du mot Rachid. Rachid, c'est Moshe, Rachid, c'est les prémices. Rachid, c'est la Torah, Rachid, c'est Israël. Mais l'essentiel de toutes les 70 explications du mot Rachid, qui veut dire commencement, les prémices, etc., c'est Torah et Israël. Mais il faudra qu'on explique tout ça. Qu'est-ce que Torah, qu'est-ce qu'Israël? Parce que bien sûr, quand on dit Israël, on ne parle pas du peuple d'Israël ou comme les élèves pensent. J'ai mis longtemps à comprendre qu'à chaque fois que je disais Israël, mes élèves traduisaient ça par l'État d'Israël. Or, moi, quand je parle d'Israël, c'est de l'âme d'Israël. L'âme d'Israël. Ou, selon que vous pouvez changer de langage, Knesset Israël. L'âme d'Israël. Ce n'est pas moi à toi, c'est l'intériorité d'Israël. C'est l'âme d'Israël, cette Neshama d'Israël qui va naître au Sinaï, lors de la sortie d'Égypte et au Sinaï. C'est-à-dire, donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, qui vient nous dévoiler ce grand, grand secret pour la clé pour comprendre tout le reste de la Torah. Et tout va être en fait pour comprendre Réchit. Il y a aussi un Remez Madim, il y a quelqu'un qui a traduit Bishvil Réchit. C'est ça qui a marqué B, c'est Bishvil pour Réchit. Il y en a qui voulaient dire Bachevil Shel Réchit. Bishvil, c'est aussi pour, mais aussi dans le Shvil. Le Shvil, c'est le sentier, le chemin. C'est-à-dire, à travers Israël, à travers la Torah, le monde a été créé. Et c'est vrai.
S'il vous plaît, le Rav Uri Cherki disait en faveur de Réchit. Quelle différence vous faites avec ce que vous avez dit?
En faveur, vous pouvez dire que c'est Be'emet pour le Réchit, pour le bien du Réchit, pour la réalisation du Réchit, pour la réalisation de la Torah. Mais Bashvil, c'est une autre explication. La Shem, en fait, ça rejoint l'explication du Maral de Prague dans le Pérec, troisième chapitre de Netzach Israël. Vous pouvez lire dans le on a une chance énorme, le public francophone, le professeur Benno Gross du Maral de Prague, Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Il y a un chapitre qui est très important, qui s'appelle le troisième chapitre. Il parle de ça. C'est-à-dire que Hachem crée à partir d'Israël, crée le monde à partir d'Israël. Ça ressemble un peu au Midrash qui dit que Hachem a vu la Torah, a créé le monde. C'est-à-dire qu'à travers la Torah, grâce à la Torah, on crée le monde. Grâce à Israël, on crée le monde. Mais ensuite, cet Israël va se concrétiser en un peuple avec lequel on va être le vecteur, comme la paracha de cette semaine, on va être le vecteur de la bracha. Par nous, va passer la bracha. C'est marrant. Sachez que les plus grands enseignements, c'est les enseignements les plus simples. C'est-à-dire, Nahon, on approfondit, mais d'un autre côté, quand on vous dit ça, c'est marqué dans la Torah de manière très claire. Mais on comprend mieux qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Mamash, la réalité de ce monde, passe par la création, passe par Israël. Passe par Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des profondeurs. Mais nous, en tant que peuple qui représente Israël, avec la Torah d'Israël, alors on arrive à comprendre mieux quelle est notre responsabilité. On est au début. On est avant la création du monde. On est avant tout ça. Arab Yoel, shalom, shalom, au Rabba.
Merci beaucoup.